Alors, désormais, nous allons accueillir un journaliste d'enquête qui est basé à Genève et qui est aussi analyste géopolitique. Depuis des années, il effectue de nombreuses publications dans Le Courrier, donc à Genève, La Méduse, à Lausanne, La Liberté, à Fribourg, The Nation, à New York et Le Monde diplomatique, à Paris. Il participe aussi à la transmission d'informations sur de nombreux blogs et fils de commentaires, surtout chez Moon of Alabama. Pendant 20 ans, il a été accrédité à l'ONU, où il suivait le travail et les activités de l'OMS pour Reuters Health News, entre autres. Je suis heureuse de vous présenter M. Robert James Persons.
Je vais essayer de vous donner un peu de l'historique de l'ONU, de l'OMS plutôt. La situation actuelle remonte à la première décennie de l'organisation, continuation de ce qui a commencé pendant les années 50. On remonte à l'époque où les États-Unis ont décidé de construire un arsenal nucléaire faramineux et les scientifiques s'y opposaient. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, a eu tardivement des arrière-pensées et il commençait à s'exprimer de sorte qu'il a été écarté totalement. Il a perdu son autorisation de sécurité. Il a fini sa vie aux îles Vierges en exil. Mais son départ a provoqué énormément de remous dans la communauté scientifique. Alors, le 8 décembre 1953, pendant la première année du premier mandat d'Eisenhower, il prononce un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU en appelant à la création d'une agence internationale chargée de contrôler l'utilisation des matières nucléaires. Et il a nommé ça Atom pour la paix. Donc, pour calmer le jeu, il va lancer une affaire qui est censée aboutir à une utilisation pacifique de l'atome. Alors, l'OMS n'était pas du tout d'accord. L'OMS, finalement, a organisé une équipe de scientifiques de catégorie mondiale pour enquêter sur la question. Et la question a été lancée à la fin des années 30, début des années 40, par la recherche de Joseph Hermann Müller, d'origine allemande, mais établi aux États-Unis, qui a eu le prix Nobel en 1946 pour avoir découvert et prouvé les effets destructifs, horriblement destructifs, de l'énergie atomique sur toute cellule vivante. L'OMS donc a lancé cette équipe en 1956, en 1957, l'équipe a publié le premier fascicule de ses recherches, collection d'essais. C'est intéressant parce qu'en bas, ça c'est la version française, Organisation mondiale de la santé, Palais des Nations Genève, parce que le citadel n'avait pas encore été construit. Et les conclusions étaient sans appel. Et il parle surtout sur les dégâts génétiques. C'est quelque chose qui a complètement disparu du discours. On parle du cancer maintenant et d'autres maladies. Mais eux tous, et partout dans la littérature de l'époque, on trouve dégâts génétiques, menaces génétiques. Le génome de l'humanité, on ne disait pas de génome à l'époque, mais le patrimoine génétique de l'humanité est menacé. Parce que, et Müller avait prouvé ça, les dégâts se passent de génération en génération jusqu'à ce que la lignée s'éteigne. L'année suivante, il y a une seconde partie. La seconde partie est consacrée à la santé mentale des personnes devant vivre dans un monde nucléarisé et le stress que ça provoquait. Et les experts là ont conclu leur rapport avec les paroles suivantes. Cependant, du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude et qui, pour citer Joseph Addison, le poète anglais du 18e, saurait chevaucher l'ouragan et diriger la tempête. Ensuite, intervient une petite affaire qui s'appelle Tchernobyl. Suite à l'explosion, l'Union soviétique a fait venir des centaines de milliers de personnes pour gérer l'affaire. Premièrement, éteindre le feu, ensuite construire le sarcophage. Ils étaient, on ne sait pas combien, mais plusieurs centaines de milliers. C'est sur ces personnes-là que l'OMS a porté son attention. Donc on peut lire sur le portail de l'OMS, et je l'ai vérifié ce matin. Parmi les liquidateurs, avec des doses au-dessus de 200 millisieverts, de l'évidence est en train d'émerger d'une faible augmentation de leucémie. Il faut noter que la dose permissible, il n'y a pas de dose sûre, les doses sont permissibles. Alors, ça, petite à côté. Les doses ont été établies par le militaire des États-Unis pendant les années 50. Une dose permissible a été établie sur le nombre de cas de cancer qui seraient produits par cette dose au sein d'une population qui pourrait être prise en charge par le système hospitalier des États-Unis. Donc, c'est la dose permissible. La dose permissible, c'est 1 millisievert par an. Ces hommes ont reçu plus de 200 millisieverts. Mais de toute façon, maintenant, on voit quoi? Émerger une faible augmentation de leucémie. Parmi les liquidateurs recevant en moyenne 120 millisieverts, et je cite exactement, cette cohorte est potentiellement à risque de cancer et d'autres maladies, et l'évolution de leur santé continue à être suivie de près. En même temps, l'OMS constate au moins 6000 cas de cancer de la thyroïde. Cette page a été mise à jour en 2006. Il n'y a plus rien depuis. Le chiffre officiel de l'OMS du nombre de personnes mortes suite à Tchernobyl, 51 personnes. Il y a un petit décalage avec d'autres chiffres. Petit. 2006, à l'occasion du 20e anniversaire de Tchernobyl, l'Ukraine émet un communiqué. Alors l'Ukraine, c'est où se trouve Tchernobyl. Tchernobyl se trouve près de la frontière avec la Biélorussie et à cause du mouvement des vents, le gros des dégâts se sont produits en Biélorussie. Donc l'Ukraine a été pas mal épargnée et pendant des années, le gouvernement de l'Ukraine a lutté bec et ongles pour minimiser l'affaire et réduire de toute manière possible le nombre. Donc en 2006, ce communiqué officiel constate le nombre de victimes ukrainiennes, 2,646,106. C'est un décalage avec les chiffres de l'OMS de la même année. Parmi ces personnes, au moins un tiers sont des enfants. Novembre 2006, il y a une immense conférence ici à la faculté de médecine à l'université de Berne consacrée justement à ces liquidateurs. À ce moment-là, on a pu accéder à des chiffres plus ou moins fiables du gouvernement russe. Et eux, ils ont indiqué qu'il y avait plus de 800 000 liquidateurs. Selon les organisations de la société civile en Russie et ailleurs, Biélorussie, Ukraine, le nombre est plutôt 1 million parce qu'il y a eu des gens qui se sont insérés dans les rangs pour avoir après accès aux avantages proposés aux liquidateurs. 2006, parmi ce million de personnes, toutes sont ou bien gravement malades ou bien mortes. 51 personnes sont mortes. Qu'est-ce qui est arrivé? Le 29 mai 1959, à l'Assemblée mondiale de la santé, l'OMS se trouve imposer un accord avec l'AIRA. L'AIRA a été montée par les États-Unis justement pour gérer le système nucléaire du monde. Mais l'AIRA a été établie sous l'autorité du Conseil de sécurité. Toutes les autres agences de l'ONU sont sous l'Assemblée mondiale, donc sous ce qu'on entend par la communauté internationale. À l'AIRA, quand il y a un différend, tout de suite, c'est envoyé devant l'autorité de surveillance, donc le Conseil de sécurité, ou les États-Unis, ou de temps en temps une autre puissance nucléaire, appose le veto à la résolution d'entrée en matière. Donc, c'est fini. Chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord. Donc, sans cette entente, rien ne bouge. Donc, depuis 1959, l'OMS ne fait rien du tout dans le domaine de la radiation ionisante et la santé. Donc, quand Tchernobyl a explosé, l'OMS a dû demander la permission de l'AIRA pour envoyer des équipes sanitaires et cette permission a été refusée. Il a fallu des années et des années et seulement suite à l'agitation de la part des gouvernements, surtout du gouvernement ukrainien et biélorussien, pour qu'ils envoient quelqu'un. Et puis là, le travail a été bien encadré selon les dictates de l'AIRA. Encore sur le portail de l'OMS, on lit. Alors, moi, tout d'abord, j'ai beaucoup publié là-dessus, y compris dans le monde diplomatique, dans The Nation, à New York. Et ça a provoqué une réponse de la part de l'OMS. Donc maintenant, à partir de 2006, sur cette même page, on trouve « Mention a souvent été faite de l'accord de 1959 avec l'AIRA. Il s'agit d'un accord normal, semblable aux accords avec d'autres agences onusiennes, comme moyen d'établir les champs de travail respectifs. » Cet accord n'a pas une seule fois été utilisé pour arrêter ou restreindre le travail de l'OMS. L'accord sert plutôt à promouvoir la coopération et la consultation entre l'OMS et l'AIRA. Il a été approuvé par le plus haut organe de gouvernance de chaque organisation. Ce serait plus juste de dire qu'il a été imposé sur le plus haut organe de gouvernance de chaque organisation. L'accord entre l'AIRA n'affecte aucunement l'exercice impartial et indépendant par l'OMS de ses responsabilités statutaires. Il ne subordonne pas non plus l'une organisation à l'autre. Et enfin, la clause qui figure dans l'article 3 que je viens de vous lire, s'agissant de la sauvegarde de l'information confidentielle, il n'y a aucune mention d'information confidentielle, et sans compter sauvegarde de l'information confidentielle. Mais l'OMS dit, s'agissant de la sauvegarde d'information confidentielle, est une disposition normale qui se trouve dans beaucoup d'accords de ce genre. On avance. En 1995, pour le 10e anniversaire, en anticipation de la 10e anniversaire, en mars 1996, Hiroshi Nakajima, directeur général de l'OMS, organise une grande conférence. C'est Nakajima qui a introduit les sociétés pharmaceutiques au sein de l'OMS. Son titre était neuropharmacologue. Donc, il était jusqu'aux oreilles dans la pharmacologie, etc. Mais il tenait à cœur le sujet de justement de la radiation ionisante parce qu'il connaissait des gens qui ont subi les bombardements et les suites à Hiroshima et Nagasaki. Il a organisé cette conférence et il a fait venir plus de 700 scientifiques parmi les meilleurs du monde. Les actes de la conférence devaient être publiés en mars, un mois avant le 10e anniversaire. Ça a été annoncé officiellement, y compris dans l'invitation à la conférence. En mars, on attend la publication et il n'y a rien. Après, je m'y suis rendu, c'est-à-dire à l'OMS, enquêté, et je me suis adressé au personnel en bas, dans le sous-sol, où ils prennent livraison de tout ce qui arrive dans l'immeuble. Et je décris la situation, et il y a deux messieurs là qui se rappellent distinctement l'arrivée de ces documents, emballés en plastique, 10 documents par paquet, sur des palettes gigantesques, des centaines et centaines de copies, peut-être des milliers, tout livré là. Et ils ont reçu l'ordre de ne rien toucher pour l'instant, parce que c'était des documents qui devaient être disséminés. Ils m'ont dit, quelques jours plus tard, les documents sont partis, tout comme ça. Je leur pose la question, où? À l'incinérateur. Je m'adresse à la bibliothécaire, une des bibliothécaires de l'OMS qui est là depuis longtemps. J'ai décrit la situation, ce que j'avais entendu en bas. Et sa réponse, ça ne m'étonne pas du tout. Donc l'OMS organise une seconde conférence sous la direction d'une certaine superpuissance. Au printemps, donc 96, qui publie ces actes, qui sont les actes, c'est la version officielle. En 2001 déjà, il y a une autre conférence organisée à Kiev, en dehors du bras de cette superpuissance, qui aboutit aux mêmes conclusions que la conférence dont les actes avaient été détruits. Ces actes ont disparu aussi, imprimés, mais n'existent plus. Le New York Academy of Sciences, en 2011, a publié un ouvrage de 327 pages, des traductions de publications en russe et en langue slave sur la catastrophe de Tchernobyl. Ils ont réuni des informations de milliers de livres et de 5000 articles. L'OMS ne reconnaît pas l'existence de cet ouvrage. En 2007, alors premièrement, je dois vous présenter un petit bout. C'est le livre définitif sur Tchernobyl par Vladimir Tcherkov, qui vient de mourir le matin de Pâques cette année, à 88 ans. Il était d'origine russe, il parlait russe et français à la maison, mais il a grandi au Tessin. Il a fait ses études en France, mais par la suite, il est devenu journaliste vedette pour la télévision de la Svizzera Italiana. Il a été envoyé là-bas pour enquêter. Et le résultat, il y est retourné maintes reprises et le résultat, c'est ça, plus de 700 pages. C'est le livre définitif de la catastrophe. Et le sous-titre est intéressant, le goulag nucléaire. Autre chercheur, Paul Zimmermann. Moi, j'ai mis en couverture parce que je le porte avec moi dans le tram, dans le sac à dos. A Primer in the Art of Deception, introduction à l'art de la tromperie, le culte des nucléaristes, les armes à l'uranium et la science frauduleuse. C'est gigantesque. Il a travaillé, je ne sais pas, 10-12 ans là-dessus. C'est extraordinaire le travail qu'il a fait. C'est un livre aussi qui n'est pas reconnu, dont l'existence n'est pas reconnue par l'OMS. Alors, dernière chose qu'il faut mentionner, 2007, à l'anniversaire de la catastrophe, un groupe de la société civile à Genève, l'OMS indépendante, monte une vigile devant l'entrée de l'OMS. Tous les jours ouvrables, pendant 10 années, il y aura au moins une personne là, exigeant de l'OMS que l'OMS casse cet accord et se libère de cet accord avec l'AIRA. L'OMS a refusé de reconnaître l'existence de cette vigile. En revanche, des gens à l'intérieur m'ont dit qu'aucune réunion de haut niveau ne se passe sans qu'on discute de la vigile, parce qu'elle est gênante. OK. Dernier épisode. En 19, les États-Unis ont bombardé l'ancienne Yougoslavie avec des armes à l'uranium appauvri. Il y a eu des cancers de toutes sortes, etc. À l'époque, comme il y a eu des déplacements de population, le HCR y avait une présence importante. Sagato Ogata, fin de l'année 2000, devait prendre sa retraite. Donc, elle était déjà partie à mi-chemin, c'est-à-dire fin juin, et la direction du HCR a été confiée à Frederick Barton, directeur général adjoint. Lui, il se faisait des soucis et il a demandé à l'OMS un avis. À l'OMS, il restait encore une seule personne, Gennady Sushkevich, grand chercheur, d'une réputation mondiale dans le domaine justement de la radiation ionisante, demande à l'OMS un avis. Sushkevich se met à mettre ensemble des informations pour ce qu'ils appellent un fact sheet, un aide-mémoire. Il ne consulte pas l'AIRA, mais il y a quelqu'un à l'ONU qui fait le nécessaire. Deux jours après, le mot revient, arrêtez votre travail. Il transmet la paperasse qu'il a pu créer jusque-là à Frederick Barton et à moi. Barton a émis des mises en garde. Il a dit toute personne envoyée au Kosovo devait avoir le choix d'un autre poste. Toute personne envoyée au Kosovo devrait avoir une note dans son dossier expliquant la situation pour que la personne puisse revendiquer des dommages-intérêts en cas de mauvaise santé après déclenché justement par l'exposition à ces particules de l'uranium appauvri. Moi, je publie ça. Et quelques jours après, Barton disparaît. Donc, c'était vers la fin du mois d'août. Donc, à partir de ce moment-là, jusqu'au 1er janvier, lorsque Ruud Lubbers est devenu au commissariat pour réfugiés, il n'y avait personne à la tête du HCR. Je n'ai pas pu retrouver Barton. Je ne savais pas où il allait. Il avait une adresse courriel auprès de l'Université de Princeton, mais qui ne marchait pas. Plus tard, j'étais en réception diplomatique et une personne, un homme, s'adresse à moi, m'aborde de manière furieuse et commence à hurler en m'expliquant que le départ de Barton n'avait rien à voir avec les mises en garde et les conseils qu'il avait émis pour son personnel et que j'avais tort de publier ça et dans un monde juste, je serais emmené devant un tribunal, je nuisais au travail du HCR et ainsi de suite. Puis, il disparaît. OK. En ce qui concerne Fukushima, tout brièvement, l'OMS n'a pu envoyer personne. Gregory Hartle, qui était le porte-parole en chef à l'OMS, nous assurait tout est en main compétente sur place. Et c'est quoi? C'est les physiciens et les ingénieurs envoyés par l'AIRA. En ce qui concerne Gates, on a reçu l'annonce, un communiqué de presse indiquant que l'OMS avait l'intention d'entreprendre une étude approfondie sur l'exposition aux ondes électromagnétiques dans nos vies quotidiennes. Attaché au communiqué de presse a été une deuxième feuille avec une liste des sources de cet cette radiation électromagnétique. Peu après, l'OMS annonce premier don de la part de la Fondation Gates à l'OMS. Si je ne me trompe pas, ça c'était 5,2 millions de dollars pour le programme de poliomyélite, bien sûr, les vaccins. Quelques jours après, on reçoit la feuille avec la liste de sources de radiation électromagnétique revues et corrigées. Et dans la salle de presse, on s'amuse à constater que les écrans d'ordinateur avaient été biffés. On peut se demander ce qui s'est passé. Ensuite, Rappaccioli. J'ai croisé du fer avec Rappaccioli au sujet justement des armes à l'uranium appauvri, etc. Il était incroyablement ignorant et stupide. Et moi, je le martelais dans la salle de presse, la salle de conférence où se tenaient les conférences de presse. Mais je le faisais tourner en rond, il était incapable de se défendre. Après, j'ai appris, il était spécialisé en ondes électromagnétiques. Il ne savait rien de la radiation ionisante parce qu'en 2009, avec le départ de Shushkevich à la retraite, ils ont éliminé le département entier. Rappaccioli a été engagé avec la tâche de codifier toutes les normes de sécurité pour la radiation électromagnétique pour faire pour l'OMS un corpus cohérent. Quand il avait presque fini, on a découvert que l'argent, l'entier de l'argent provenait de l'industrie de télécommunications, filtré à travers une fondation soi-disant privée en Australie. Ensuite, il y a eu un événement unique dans l'histoire de l'ONU, pétition internationale exigeant son renvoi. On lui a permis de terminer son travail. Après, j'ai croisé Maria Nera, qui était son chef immédiat. Je dis, Maria, est-ce que vous allez refaire tout ce travail, ce bidon? Et elle me dit, Robert, les seules entités qui pourraient s'intéresser à payer ça, ce sont les sociétés de télécommunications. On revient à la même chose. En ce qui concerne cette affaire de COVID, il faut garder à la tête tout simplement que les brevets de ces produits qu'on nous a présentés comme vaccins sont la propriété du Pentagone, développés par le Pentagone. Le brevet était entre les mains. Enfin, ça a été disputé avec Robert Wallace Malone qui avait inventé la technologie, mais après 20 ans, les brevets sont échus. Ils ont été repris par la DARPA, Defense Advanced Research Agency, et la BARDA, Biologics Advanced Research Authority. Et c'est à partir de ça qu'on a eu ces merveilles. Je crois que ça suffit. Je vous remercie.